Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément. Et alors aujourd'hui, avec mes deux compères que je vais vous présenter juste après, on va parler des Toronto Raptors qui traversent une saison un petit peu compliquée, on va en reparler. Donc pour ça, j'ai fait appel à mes deux copains, mes deux amis, mes deux sidekicks, si je peux dire ça comme ça. Benjamin va adorer. Mais j'adore les sidekicks, c'est pas péjoratif quand je dis ça, les mecs. Monsieur Raphaël Delaveau et Monsieur Benjamin Moubèche sont avec nous. Comment ça va, la famille?
Eh ben écoute, ça va très très bien. On va parler d'une équipe dont on parle pas souvent, même quand ils sont bons, on en parle un peu moins. Et surtout, on est plus que des sidekicks, hein, je te laisserai pas dire ça.
Content de revenir parler des Raptors, mon Ben?
Bah écoute, très content, surtout que c'est une espèce en voie de disparition actuellement. Donc c'est l'occasion de faire un petit point sur la catastrophe qui les attend potentiellement cette saison. Peut-être le meilleur, on verra, mais situation très intéressante.
Exactement, puis on adore les Raptors chez l'analyste, on a un petit passif avec cette équipe. Benjamin adore quand je parle de ça. Les gars, on commence tout de suite. D'ailleurs, je vais commencer avec toi, Ben. Les Raptors, aujourd'hui, au 26 janvier, donc le jour où on enregistre, sont 12e à l'Est. Ils ont vécu une première moitié de saison assez décevante, il faut dire, puisqu'ils sont en 22-27.
Bah, c'est pas un peu décevant, c'est extrêmement décevant.
On s'attendait pas à ça.
Parce que... effectivement, là, ils sont 12e de l'Est, seulement devant les équipes qui tankent. Donc, clairement, ce n'est pas la position dans laquelle on attendait les Raptors, qui sont depuis quelques années une des places fortes de l'Est, malgré le départ de DeRozan d'abord pour Kawhi Leonard, puis de Kawhi Leonard. Ils ont toujours su garder une identité très marquée et rester une équipe dangereuse. Et cette identité, c'était la défense. Et cette saison, la défense des Raptors n'est pas celle qu'on pensait qu'elle serait. C'est vraiment décevant, il y a un manque d'effort global et c'est assez ironique de faire ce podcast à ce moment-là parce que hier ils ont battu les Kings 113-95 avec une énorme défense où ils ont notamment limité Sabonis à 9 points.
Ça prouve bien que potentiellement ils ont ce qu'il faut, quoi.
C'est ça, ils ont potentiellement ce qu'il faut, mais c'est vrai que c'est une équipe un peu particulière parce qu'il y a un fit étrange sur l'aile avec ce mélange Pascal Siakam, Scotty Barnes, OG Anunoby qui sont trois ailiers polyvalents. Il y a une saison décevante de Fred VanVleet, on va peut-être creuser un peu plus tard. Scotty Barnes, c'est pas exactement l'évolution qu'on espérait malgré le fait qu'il reste bon et qu'il évolue dans son playmaking, en défense et dans d'autres domaines. Et c'est pas une défense aussi switchable que ce qu'on aurait espéré. Donc sur le bilan global, en fait, c'est la défense qui déçoit beaucoup et qui fait qu'ils sont pas au niveau qu'on attendait. Et puis niveau individuel, voilà, il y a aussi des déceptions. C'est une saison vraiment décevante pour l'instant pour les Raptors. Ceci dit, il reste encore 30 matchs, c'est pas fini.
Hein. Attention, on sait que tout peut changer après le All-Star Break. Là, on a vu que l'année dernière, par exemple, les Celtics étaient à peu près au même niveau que les Raptors à ce moment-là de la saison. Puis ils avaient fait une deuxième moitié de saison hallucinante et depuis, tout roule pour le mieux, j'ai envie de dire. Raphaël, un petit mot peut-être sur ce début de saison des Raptors. J'imagine que Ben a bien résumé les choses, mais donne-nous un petit peu ton avis sur ce début de saison.
Bah, si j'étais professeur, je mettrais bien c'est moins, tu vois. Hein, je suis un peu aigri aujourd'hui finalement. Bah, en fait, les Raptors, on se disait tous que ça allait être vachement compliqué de les jouer. On les voyait tous se battre pour le haut du play-in, voire les play-offs. Hein, j'ai quand même l'impression. Et là, en fait, comme Benjamin l'a dit juste avant, ils sont 19e au defensive rating. C'est jamais les Raptors, ça finalement, avec l'effectif qu'ils ont, avec la longueur de bras qu'ils ont. On se dit qu'ils pouvaient défendre n'importe qui avec plusieurs gars. Et clairement, c'est compliqué parce que l'offensive rating, finalement, 10e,
c'est OK,
c'est correct. Et avec des stats comme ça, se retrouver en 22-27, on est plutôt étonné finalement. Mais on a aussi l'impression qu'avec l'effectif qu'il a, Nick Nurse, on a l'impression qu'il connaît ces joueurs-là, mais qu'il n'arrive plus à se renouveler, à avoir ce petit truc en plus, cette petite étincelle qui fait gagner des matchs en plus. Et comme tu l'as dit, Scotty Barnes, ce n'est pas l'évolution qu'on attendait tous. Il est de mieux en mieux, il a très très mal démarré. On a l'impression qu'il a pris un sophomore wall, qui n'arrive quasiment jamais, ce truc-là, mais bon. Voilà. Et donc, il y a eu des défaites contre les Pacers, il y a eu deux fois contre le Magic. Ça étonne, quoi. C'est pas les Raptors, c'est vrai. C'est ça. Et donc, il y a un manque d'envie au global, on a l'impression, alors que pourtant, ils ont un pays derrière eux, ils ont une franchise, ils ont des supporters qui sont incroyables, et ils ont aussi un effectif qui peut leur permettre d'aller loin dans la main.
Ben, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'était Pascal Siakam. Alors, on sait que c'est un peu la clé de voûte de cette équipe, c'est un all-star en puissance, on le sait, c'est un joueur formidable, un joueur collectif qui sait tout faire sur un terrain de basket. Qu'est-ce qu'on pense de ce début de saison de Pascal Siakam? Est-ce que, alors, Siakam fait ses stats, Siakam est toujours impactant sur un terrain de basket, évidemment. Mais est-ce que, compte tenu du résultat collectif, comme on vient d'en parler, c'est pas un petit peu décevant, finalement?
Moi, j'ai envie de dire un truc un peu idiot, mais c'est pas de sa faute, en fait. C'est vraiment pas de sa faute. Cette saison, il tourne à 25,2 points, 8,3 rebonds, 6,5 passes, 47,7% au tir et du 32% à 3 points. mais il joue 37,6 minutes par match, ce qui est ahurissant. Il n'a jamais été autant utilisé dans sa carrière. Il a 30,6% de usage rate, ce qui est énorme. C'est la plus haute moyenne de points de sa carrière, donc c'est logique. Mais en fait, là où Pascal Siakam progresse, ses 25 points, ce n'est pas un résultat de fou pour un mec qui est aussi athlétique, aussi long, qui devient de plus en plus technique. Mais mine de rien, ça reste un score plafonné. Dans le sens où, en termes d'efficacité, il est quand même... c'est pas un des meilleurs scores de la ligue. Par contre, il est d'une polyvalence phénoménale, dans le sens où c'est un excellent rebondeur et puis un playmaker qui progresse systématiquement. Il n'a jamais été autant passeur. Il a 6,5 passes de moyenne, donc c'est sa meilleure moyenne en carrière. Et il a très peu de déchets, 10,1% de perte de balles, ce qui est très faible par rapport à son volume. Donc en fait, Pascal Siakam, c'est un All-Star, en fait, point. C'est pas un All-Star en puissance, pour moi, c'est un All-Star. Il le sera potentiellement parmi les remplaçants. Et s'il n'y est pas, c'est pas pour des questions de niveau. Y a des chances qu'il ne le fasse pas parce que Toronto est 12e, mais individuellement, intrinsèquement, parce que Siakam est un All-Star.
C'est clair. Raphaël, un petit mot sur l'ami Siakam ?
C'est ça. On va dire que statistiquement, c'est sa meilleure saison en carrière. Voilà. On peut rien dire là-dessus. Il a prouvé des choses cette saison. Il est de plus en plus playmaker, comme on le dit. Mais voilà, il est utilisé 38 minutes par match. Je ne sais pas si on se rend compte. On a l'impression qu'il est autant utilisé que les gars dans les années 60. Ça existe.
C'est Will Chamberlain, ouais.
Et ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Il est plafonné. Clairement, on a l'impression qu'on voit le max du max du max et que Nick Nurse pousse ce truc jusqu'au bout avec Siakam. Alors que pourtant, il a un effectif hyper deep, quoi. Il y a genre 13 mecs qui peuvent jouer. Moi, sur le papier, j'ai l'impression quand même, quand on voit l'effectif des Raptors, même s'ils sont c'est tous des 6-9, ils font tous 2m06, on a compris, ça c'est les Raptors, mais on a quand même l'impression qu'il faudrait quand même un peu plus pousser et laisser un peu Siakam respirer finalement. Tu l'as dit, c'est un All-Star, il le sera, je pense, si ce n'est parmi les remplaçants, il sera parmi les wildcards et il y aura forcément quelqu'un qui sera pas là, il le sera. Mais voilà, clairement, il y a un truc avec Siakam, on a l'impression qu'on aime ce qu'on voit, mais que c'est pas non plus ce qu'on aurait voulu voir à 100% avec Pascal, finalement.
T'as dit un truc super intéressant, si on aimerait laisser respirer un petit peu plus Pascal Siakam, mais est-ce que cette impression, c'est pas beaucoup lié au fait que Fred Van Vliet, justement, faut qu'on parle du cycliste, là. Fred Van Vliet, est-ce qu'il est... Enfin, il fait quand même une saison... lui, pour le coup, il est moins dans le coup que Siakam, il est un petit peu en difficulté. Est-ce que le fait que Siakam soit surutilisé et qu'il ait pas beaucoup d'air, qu'il soit obligé de surjouer... C'est pas lié à cette mauvaise saison de Fred Van Vliet, Raphaël ?
C'est très possible pour le coup, parce que Fred Van Vliet, l'année dernière, il avait fait une super saison. Il s'était un peu encore plus révélé. Hein, il s'était révélé pendant le titre des Raptors, mais là, il avait pris un autre galon finalement. Ouais. Cette saison, c'est 19 points, 39% au tir, 34% à 3 points. C'est un peu des stats à la Devonte Graham, quoi. Donc c'est pas très bien pour Fred Van Vliet finalement. Il perdu. Désolé, hein, désolé pour Devonte. Il devrait être ce leader un peu le playmaker numéro 1, sauf que Siakam prend ce rôle finalement, lui a un peu pris son rôle, et on a l'impression qu'il se retrouve plus trop là-dedans. Il y a énormément de rumeurs autour de Fred Van Vliet. Là, je pense que chaque jour, tu as une nouvelle rumeur qui sort avec une nouvelle franchise et un nouveau package.
Ben arrive en courant.
Et ça doit être assez dur finalement de le vivre de son côté, parce que ça, je pense que quand on est joueur NBA, on le voit, et quand on fait une saison assez moyenne, on le voit aussi. Mais je pense qu'il faut encore une fois laisser un petit peu de temps, parce que Van Vliet, c'est pas non plus un gars qui était non plus établi et prêt au haut niveau, hein. C'est un gars qui est non drafté, il me semble, qui justement a eu un parcours un peu plus compliqué, et vraiment il s'est établi au niveau. Et puis, enfin, en soi, on va dire que 19 points à 39%, c'est pas beau, mais c'est quand même 19 points, donc c'est pas non plus sa saison où il met 14 points, il shoot à 39% et il y arrive plus du tout. Il montre que quand même c'est un joueur correct en NBA, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux, et on sait que je pense que c'est les conditions justement qui lui manquent cette saison pour avoir un impact beaucoup plus grand, j'ai l'impression.
Alors justement, Benjamin, qu'est-ce qu'on fait de Fred Van Vliet ? Parce qu'on sait qu'il est beaucoup dans les rumeurs de trade, comme le dit Raphaël, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça ? Je sais que t'adores ça, alors je vais pas t'aiguiller plus que ça, régale-nous ta carte blanche.
En fait, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on fait de Fred Van Vliet ? Il y a une baisse de niveau. La question, c'est est-ce que c'est lié à son retour de blessure ? Est-ce que c'est une méforme de cette saison ? Ou est-ce que c'est juste il se prend un mur et il est voué à jouer comme ça ?
Est-ce que finalement, sa saison dernière, c'était pas une saison exceptionnelle et qu'il n'est pas capable de reproduire ça, finalement ?
Moi, je suis plus d'avis de dire que là, cette saison, il est un peu en dessous, mais qu'il peut revenir à son niveau. Ça, c'est mon opinion. Malgré tout, il y a quand même cette question de Fred Van Vliet est agent libre cet été. Il ne pouvait pas accepter l'extension que lui proposaient les Raptors parce que c'était trop faible. C'est pas de la faute des Raptors, c'est de la faute du CBA et de comment la NBA est construite. On savait qu'il deviendrait agent libre cet été. Il a une player option, mais il la prendra sans doute pas parce qu'il peut quand même prétendre à un salaire beaucoup plus gros. Et on sait notamment que les Suns et le Magic sont sur le dossier pour l'été. Donc pour les Raptors, il y a vraiment une question. Soit ils le transfèrent à la deadline, qui, on le rappelle, est fixée au 9 février, donc c'est imminent, soit ils le payent cet été. Il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire que soit tu le transfères, soit tu le payes cet été. Sinon, ça veut dire que tu le perds pour rien et c'est la mauvaise décision.
Ce serait terrible. Hein, perdre un joueur comme ça serait terrible. Même s'il est en difficulté, on sait que Fred VanVleet, on vous l'a dit, hein, on pense que c'est vraiment un petit coup de mou côté VanVleet et qu'il est capable de vraiment reproduire des saisons comme l'année dernière, All-Star, vraiment très précieux pour son équipe. Ce serait dur de perdre un joueur comme ça gratos.
Bah, c'est clair. Et puis, mais du coup, ça pose quand même la question parce que ça implique que là, maintenant, les Raptors doivent faire un choix qui est de soit changer de projet, soit prendre un engagement à long terme avec Fred VanVleet. C'est un peu ça. En fait, du coup, tout le projet des Raptors est mis en jeu sur cette question-là. Parce que si tu transfères Fred VanVleet, est-ce que tu te lances dans une reconstruction? Est-ce que tu axes autour de 25 ans sur une timeline un peu plus jeune qui fit un peu sur Scotty Barnes? Est-ce que c'est pour récupérer un mec qui est plus adapté au projet? En fait, c'est très compliqué. Et on sait par contre que sur le marché de transfert, il y a beaucoup d'équipes intéressées. J'en liste au moins 8, c'est-à-dire le Heat, les Lakers, Clippers, Wolves, Mavericks, Suns, Wizards, à des degrés variables, avec des niveaux de réalisme relativement variables. Mais beaucoup d'équipes sont dans les trading blocks. Donc c'est un peu compliqué de dire ce que vont faire les Raptors avec Fred VanVleet. En tout cas, c'est vraiment un énorme domino dans le paysage de la conférence Est. Et de manière générale, dans le projet des Raptors, ça peut tout changer. Donc ce qu'ils vont faire là, avant le 9 février, va tout déterminer dans la direction de leur projet.
C'est clair que de toute façon, des équipes un peu contenders qui ont besoin de se renforcer un petit peu au playmaking sur le poste 1-2, ils vont se ruer sur Fred VanVleet, ils vont passer des appels à Toronto, hein, ça c'est clair. Du coup, tout ça, t'as évoqué un truc très important, Benjamin. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui aux Raptors? Est-ce qu'on essaie de trade, que ce soit VanVleet ou d'autres joueurs? Il y a notamment OG Anunoby qui est dans quelques rumeurs parce que visiblement, d'après les dernières informations, il se plairait plus trop, il en a un petit peu ras-le-bol. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces Raptors, Raphaël? Est-ce qu'on fait des trades? Est-ce qu'on essaie de remodeler un petit peu cet effectif tout en gardant la même base autour de Siakam, de Scotty Barnes et tout ça? Et on essaie de remonter la pente comme ça? Ou alors, est-ce qu'on active un petit peu un semblant de reconstruction?
Eh bah, bien, je pense que ça va être cette deuxième option. Pas le semblant de reconstruction, mais au moins la transition, j'ai envie de dire.
Ah, tu penses, toi?
Parce que là, ouais, un petit peu. Je pense qu'il y aura du move à la deadline, ça c'est sûr. Un ou deux joueurs assez majeurs. Anunoby, ça a l'air quand même d'être quasiment acté. Il y a beaucoup d'offres. Il y a eu ce petit truc qui est passé. On l'a vu qu'il y avait une offre de 3 premiers tours de draft pour Anunoby. Je sais pas d'où ça vient.
Ah oui, pour une équipe contender, t'es content de récupérer Anunoby.
Voilà. Bah ouais, t'es content de récupérer Anunoby, mais ça prouve aussi que c'est un gars qui a beaucoup de valeur. Et ça, je pense que les Raptors le voient. Et peut-être que ça va leur donner des idées pour pourquoi pas transférer OG Anunoby, qui fait une saison assez correcte quand même, ouais. On va dire. Il est plutôt pas mal sa saison, il progresse. Il y a l'idée aussi autour de Gary Trent qui fait, lui, on va dire, bah voilà, c'est la saison à la Gary Trent finalement. Là, il est à 19 points quasiment, 37% à 3 points, ce qui est assez correct finalement. Et là aussi, il a une grosse valeur marchande parce que Gary Trent, c'est une player option cet été, 18 millions. Il peut la prendre, mais on a quand même l'impression qu'il y a certaines équipes qui ont des profils comme ça. Il y a plusieurs équipes qui peuvent lui donner 25, donc ça va lui donner des idées aussi. Et savoir que les Raptors peuvent perdre et VanVleet et un gars comme ça contre rien, je pense pas qu'ils voudront. Donc il y aura au moins pour moi un move quasi sûr, c'est Anunoby. Et un deuxième qui est plutôt probable pour moi, ça serait Gary Trent. Savoir contre quoi il le récupère, ça je ne sais pas encore. Mais peut-être pourquoi pas laisser encore un peu plus de place à Scotty Barnes pour encore plus se développer, j'ai envie de dire. Voilà, donc on verra. Mais il y a encore l'histoire de Siakam avec, qui est un peu sur les mêmes postes. Enfin, c'est assez compliqué, Toronto. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Tout ne sera pas fait à la deadline, mais une première esquisse du projet sera fait pour moi d'ici 2 semaines.
C'est intéressant ce qui se passe à Toronto. Ben, toi, du coup, ton avis, c'est quoi sur le potentiel projet des Raptors? Est-ce qu'on fait un petit peu péter, tout péter entre grandes guillemets, hein, ou est-ce qu'on essaye quand même de rester sur ces bases-là et de remonter la pente?
Bah, je pense que ce qui est certain, c'est qu'il y aura du move côté Toronto à la trade deadline. C'est pas certain, mais voilà. Mais après, c'est vrai que la question, c'est vraiment, est-ce qu'ils achètent ou est-ce qu'ils vendent? Est-ce qu'ils cherchent des joueurs pour compléter leur effectif? Je pense notamment à un rim protector à la Miles Turner ou Jakob Poeltl, par exemple, parce que c'est un peu le profil qui leur manque, malgré le fait que Chris Boucher peut être très bon parfois et que Precious Achiuwa montre de très très bonnes choses en défense. Mais c'est un peu ce qui leur manque. Et c'est peut-être ce qu'ils vont aller chercher s'ils sont acheteurs. S'ils sont vendeurs, c'est vrai que c'est une toute autre question. Pour moi, Gary Trent Jr. est le candidat le plus probable pour un transfert parce qu'il y a un peu de marge à ce niveau-là, parce qu'il est potentiellement agent libre cet été. Et si une offre intéressante se présente, je pense que les Raptors sont moins engagés sur le projet Gary Trent Jr. que sur d'autres projets. Sur OG Nobi, on sait qu'il y a pas mal d'équipes intéressées. Et c'est normal parce qu'il nous fait une saison défensive exceptionnelle, tout simplement. C'est le meilleur défenseur des Raptors. Il sort complètement du lot. C'était un stade, un candidat pour le DPOY. Et c'est vraiment, cette saison, un des meilleurs défenseurs sur le périmètre de la Ligue. Donc vraiment, c'est un mec qui est très recherché. Mais on entend que les Raptors veulent vraiment une grosse contrepartie en échange. On parle d'un package à la Dejounte Murray. Justement, Raphaël parlait de 3 premiers tours de draft. C'est un truc dans ces eaux-là.
C'est ouf,
hein. Si ça se propose, peut-être que ça va débloquer la situation, hein, mais voilà, c'est un peu compliqué de savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne laisseront pas partir ni Siakam, ni Anunoby sans des deals monstrueux en échange. Donc pour moi, en fait, ils sont en cette position où, compte tenu que de la position des autres équipes du marché, il n'y a pas tant d'équipes qui vont acheter à la trade deadline que ça, notamment à l'aile. Il y a pas mal d'équipes qui cherchent un pivot, qui cherchent à se renforcer sur le backcourt, mais à l'aile, il y a moins de demandes. Et compte tenu de la position des autres équipes, des exigences très élevées des Raptors, et c'est normal, mais aussi du fait que Ginobili reste sous contrat pendant au moins une saison après celle-ci, et puis ensuite une player option, je pense que Ginobili ne bougera pas. Voilà, donc je pense que on verra ce qu'ils font. Je ne peux pas dire s'ils sont acheteurs ou vendeurs. Je pense qu'ils vont plutôt acheter et ramener un pivot. Mais en tout cas, si ça se fait, je pense que ce sera à coup de gros deal pour OG Anunoby et de trade de Gary Trent Jr. en fonction, bah, du coup, soit d'un gros joueur, soit de capital draft.
Bon, bah, en tout cas, on verra ce qui se passe côté Raptors d'ici la deadline. On sait que leurs joueurs, un petit peu dans les rumeurs, ont de la valeur et les Raptors ont de quoi négocier, hein, très clairement. Les gars, merci beaucoup pour vos petites analyses. C'était très intéressant de parler des Raptors. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé des Raptors. Donc ça fait toujours plaisir, vous qui nous regardez ou nous écoutez, dites-nous en commentaire ce que vous pensez justement de ce début de saison des Raptors, si vous les voyez tout faire péter ou si vous les voyez relever la tête et redresser un petit peu la pente, on se fera un plaisir de vous répondre.